Bien, je vous invite dans votre Bible et on va continuer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Nous sommes dans une partie du livre de l'Apocalypse qui est moins appréciée. On aime les visions de la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines avant Noël. On a regardé Dieu sur le trône comme créateur. On a regardé sur le trône comme créateur qui invite son fils, qui est le seul digne à pouvoir ouvrir les sceaux et voir ce qui est dans le livre, parce qu'il est le Rédempteur. Et le chapitre 5 a loué le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, comme Rédempteur et lion en même temps. On a regardé ces deux chapitres en deux prédications à la fin d'août et début décembre. Et on se réconforte dans ces belles images. Maintenant, derrière un Dieu aussi grand comme Créateur, devant l'agneau de Dieu, le lion, aussi puissant comme Rédempteur, il y a aussi une autre réalité. Celui du jugement. Il y a un jugement pour ceux qui rejettent le Créateur. Il y a un jugement pour ceux qui rejettent le seul et unique Rédempteur qui permet de racheter notre âme de notre perdition. Et s'il y a un rejet du Rédempteur, il y a un rejet du Créateur, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a un jugement. Et c'est ce qu'on constate dans les chapitres suivants. Mais à travers les jugements qu'on va étudier à travers ces chapitres, on va faire un chapitre à la fois par prédication. On va découvrir aussi le caractère de Dieu, sa nature également, qu'on retrouve non seulement dans les textes des évangiles, mais qu'on retrouve aussi dans toute l'Apocalypse. Et on va découvrir et voir du réconfort. Et à travers un chapitre consacré au jugement de la planète, littéralement, on va découvrir aussi du réconfort dans la souffrance. Et à voir à travers cela que notre Dieu n'est pas indifférent de la souffrance et particulièrement de la souffrance de ses enfants au milieu de l'injustice. Et il y a du réconfort en plein milieu de ce chapitre important pour nous. Et donc, ne vous laissez pas décourager ou intimider par le jugement qui est là. Si vous avez accepté le Créateur et que vous avez cru dans son Rédempteur, il n'y a aucune crainte du jugement. Mais si vous n'avez pas aucun des deux, ah oui, vous devriez avoir peur. Et il y a de bonnes raisons. Et on va le voir dans ce chapitre suivant. Maintenant, je vais partir ma propre horloge et partir aussi. J'ai besoin, Benoît, de la petite manette aussi pour la diapo. On se fait ça les uns les autres. Des fois à l'église, on se vole la manette de diapo là, parce que on se mélange dans tout ça. Puis là, il tousse dessus en plus pour aider. Merci, Benoît. Il l'a nettoyé en faisant dessus. Alors, c'est rassurant, hein? C'est beau l'équipe. Hein? Non, on se taquine les uns les autres. Faites-vous en pas. Non. De toute façon, la COVID a passé par chez nous aussi. On n'est pas nerveux chez nous. Ah, puis Benoît avait son masque, tu vois. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. Non, on se taquine les uns les autres. Alors, on est dans la rupture des sept sceaux. Et donc, un chapitre extrêmement important et qu'on va regarder dans les prochaines minutes au complet. Avant de commencer, j'aimerais juste vous lire ce qu'un pasteur a écrit et que je trouvais vraiment bien, un tout petit paragraphe qui va comme suit au sujet du chapitre qu'on va regarder. « Puisque l'Église ne sait jamais lorsque le Christ reviendra, chaque génération doit vivre dans l'attente de son retour. Ainsi, le livre doit être capable de communiquer, en parlant du livre de l'Apocalypse, la vérité à chaque génération, non seulement les personnes qui vivent en ce moment présent. Les versets de l'Apocalypse, il y en a plusieurs, qui indiquent l'aspect intemporel du message de Jean à son auditoire. Cela explique également pourquoi l'apôtre utilise le symbolisme, par exemple, car le symbole ne perd jamais leur sens. Dans tous les siècles de l'histoire, l'Église a dû affronter Babylone, puisqu'il y a cette lutte entre Babylone et cette nouvelle Jérusalem. Et l'Antichrist, il y en a eu des Antichrists. Mais dans le chapitre 6 à 9, est simplement le point culminant de tout cela dans l'histoire, de ce conflit ultime qui va sévir dans un moment intense dans le futur, dont le livre de Daniel nous parle. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, nous parle d'une dernière semaine, donc une période de 7 ans qu'il y aura dans l'histoire humaine, où ce qu'Israël est particulièrement au milieu de cela et qui va affecter toute la planète. Et c'est cela qu'on est en train de décrire. Une chose est importante à savoir, c'est qu'on va regarder ce matin les jugements des sept sceaux qui vont ouvrir. Donc, c'est ce gros livre qu'on avait parlé, un rouleau avec des sceaux dessus, comme on a vu sur la première image, qui vont être décollés et brisés un à un pour permettre d'ouvrir ce rouleau, ce livre. Et à mesure que chacun des jugements qui sortent avec la cassure d'un sceau, on a cette description des jugements qui suivent. Et remarquez bien, il y a sept sceaux, mais rendu au septième sceau, lorsqu'il ouvre, il y a une introduction, il y a une parenthèse au chapitre 7, et il ouvre au chapitre 8 et 9, et là on voit sept trompettes qui vont résonner et qui vont annoncer des jugements qui vont se passer sur la terre. Rendu à la septième trompette, il va y avoir l'ouverture des coupes de jugements qui vont être versées sur la terre. Sept. Et donc, il y a une suite où ce que le septième ouvre pour une autre série et dont le septième à l'intérieur de cette série-là ouvre pour une autre série de sept. Il y a une suite dans tout cela et non une répétition. C'est vraiment important. Je vous rappelle le plan. Alors, on ne sait pas exactement où est le milieu approximativement, mais on voit qu'il y a une progression et non une répétition. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous rappelle notre plan du livre, où ce qu'on est continuellement dans les premières moitiés du livre, du chapitre 4 à 19, dans un haut et en haut et en bas, un mouvement de haut en bas, où ce qu'on voit une scène sur terre de jugement, ensuite on va au ciel et il y a une information de ce qu'on voit au ciel qui nous aide à comprendre ce qui se passe. On revient sur terre des jugements, on retourne une parenthèse au ciel où ce qui se passe des choses qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Et ainsi de suite. Un mouvement qui se descend comme ça, où ce qu'on voit une première moitié, le milieu de la tribulation, je vais vous expliquer pourquoi rendu là, et jusqu'à finalement la deuxième moitié qui se termine avec le retour de Christ au chapitre 19. Je vais vous ramener cette image là périodiquement pour vous donner une vue d'ensemble, parce que si vous lisez et que vous n'avez pas une vue d'ensemble, on se perd facilement. Et donc, c'est important d'avoir un plan, comme vous avez des plans de chapitres dans n'importe quel livre que vous lisez. Alors, voici un plan de chapitre qui vous aide à comprendre où on avance présentement. Et on est au chapitre 6, en train de lire les jugements des sept nations. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ceci, et je vais vous faire la lecture de quelques versets avant d'aller plus loin et prier le Seigneur, alors qu'on va lire ce qui se passe dans ces versets. Je vous lis au chapitre 6, verset 1. On va aller jusqu'au verset 8. Alors je vis, quand l'agneau ouvrit le premier de sept sceaux, j'entendis le premier des quatre animaux s'écrier d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis, c'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et ici, c'est important, c'est pas une couronne de roi, comme on va voir le Christ venir à la fin du livre avec une couronne, un diadème. C'est une couronne plutôt de vainqueur qui lui fut donnée. Il partait en vainqueur. Pourquoi? Pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième animal s'écrier « Viens !» Alors surgit un autre cheval rouge feu à celui qui le montait fut donné le pouvoir de ravir la paix de la terre pour qu'on s'entretue. Et lui fut donné une grande épée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal s'écrier, viens! Et je vis. C'était un cheval noir. Ou littéralement, en grec, c'est mélasse. Noir mélasse. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre animaux qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et le vin, n'y touche pas. » Comme si ce luxe-là devait être gardé peut-être pour un groupe élite. Même dans les grandes familles, on l'a vu, ce genre de choses-là arriver dans l'histoire humaine. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième animal s'écrier, viens, et je vis, et c'était maintenant un cheval verdâtre, ou blême, ou la couleur littéralement, c'est du couleur comme le chlore littéralement qui est utilisé là ici, chlorus, un verdâtre comme quelqu'un qui est mort, blême. Celui, et c'est pour ça qu'il y a différents mots dans vos versions, celui qui le montait, on le nomme la mort. et l'Hadès le suivait, comme si c'était deux personnages, comme dans les dieux grecs en quelque sorte, personnifiés ici, la mort et Hadès le suivaient. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour tuer par l'épée, la famine et la mort et les fauves de la terre. Un grand jugement. On va prier le Seigneur et lui demander sa sagesse pour comprendre et apprécier sa parole. Seigneur, on n'aime pas ça lire des jugements, on n'aime pas ça lire, Seigneur, la mort de des gens, on n'aime pas lire les choses qui nous font peur. Et pourtant, Seigneur, tout comme tu as mis des promesses, des histoires incroyables qui nous encouragent, qui nous fait regarder vers toi avec espérance dans les moments difficiles, tu nous mets aussi, Seigneur, des histoires de la réalité humaine de nos échecs. Tu mets des histoires de notre réalité humaine de la méchanceté et tu mets cette réalité aussi d'avertissement, de jugement. Et Seigneur, si on comprend que c'est un avertissement, c'est-à-dire qu'on nous donne un avertissement d'avance, c'est un acte de grâce de nous dire d'avance ce qui va se passer, nous donnant une opportunité d'éviter ce jugement. Même l'avertissement est une grâce de ta part, Seigneur. Aide-nous à voir derrière ce message de jugement et de choses qui vont se passer dans l'avenir sur cette terre, de voir à travers ça ton caractère juste, ton caractère saint, ton caractère aimant envers tes enfants, ton caractère gracieux, même dans le jugement, Seigneur. Ouvre nos yeux et aide-nous à évaluer notre situation. Sommes-nous prêts, Seigneur, à faire face à un jugement, au jugement qui viendra un jour. Seigneur, éclaire nos yeux ce matin, on te le demande, ouvre nos cœurs, parle-nous personnellement. Nous te le demandons, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Beaucoup de choses ce matin à vous partager, et je prie le Seigneur de m'aider à me garder discipliné pour avancer ponctuellement. Ce matin, j'ai fait l'exception d'être accompagné ce matin, et vous pourrez prier pour cela. J'ai été accompagné de Mathias ce matin, et je ne viens pas accompagner en ces moments-ci à l'église habituellement, mais Mathias s'est fracturé le bras à cet endroit-ci hier, une chute, et là, il est attelé, on est à l'urgence, et là, j'ai un rendez-vous ce matin qui devait être à 8 heures, j'ai demandé de faire grâce que je puisse y aller à 11 heures. Donc, aussitôt que je termine, je m'en vais à voir un docteur spécialisé évidemment pour les fractures, un orthopédiste. Alors c'est là qu'on va aller. Fait que je suis accompagné ce matin, vous pouvez prier pour Mathias. C'est déjà l'autonomie, des fois c'est pas facile, et là l'autonomie va être encore un défi plus grand. Alors je sais que quelques-uns de l'équipe regardent dans la salle, mais il est couché à terre avec son chien. Alors, c'est pour ça qu'on le voit pas. Alors, prier pour Mathias, c'est que le Seigneur nous donne la force aussi à travers ça, dans l'autonomie que ça apporte comme défi. Et aussi, je vous donne des nouvelles que le dossier avec nos enfants en Haïti a avancé beaucoup dans les dernières 4 semaines. On est reconnaissant à Dieu pour cela. On a déposé le 5, le dossier de demande à l'ambassade canadienne en Haïti en vue de passeport et de visa. Donc, vous savez que si on est rendu là, ça avance. Et il y a espoir que peut-être d'ici 3 semaines, les enfants pourraient être à la maison. Donc, ça bouge, ça avance. On vous demande donc de prier pour Christopher et pour Fredna, que le Seigneur les protège et accorde aussi à travers tout cela les détails pour le voyage qui sont encore inconnus sur comment on va les amener ici exactement. Mais on sait aussi qu'il y a une autre fratrie de 2 enfants qui viendrait au Québec possiblement en même temps. Une demande a été déposée en même temps. Donc, on espère là à travers tout ça de l'entraide et trouver moyen comment on va faire tout cela en ce temps de pandémie, alors qu'il y a pour le moment un vol direct à Port-au-Prince de Montréal par semaine. Alors, et voilà. C'est tout pour moi. Alors, vous avez maintenant devant vous le plan de notre chapitre présent. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il y a premièrement des jugements dans les 4 premiers sauts, avec des chevals qui sont des symboles, évidemment. Ce ne sont pas nécessairement juste une personne comme telle dans chacune d'elles, mais c'est les forces à l'œuvre et les jugements qui vont s'exécuter sur la terre. 4 images de chevaliers avec leur cheval. Et ensuite, on va voir une réponse de la part de ceux qui sont des croyants dans ce temps difficile et une réponse de la part de ceux qui sont incroyants dans ce moment de bouleversement, alors qu'il y a des grands séismes sur la terre. Certaines personnes, lorsqu'ils regardent ces chapitres, disent « Ah, mais Joël, c'est pas vraiment une suite de jugements, mais c'est les jugements qui se répètent. répètent. C'est les jugements qui s'intensifient. C'est comme un cercle qui devient de plus en plus concentrique. Et plusieurs commentateurs ont exprimé ce genre de vision-là. Mais un vieux commentateur d'il y a cela plus de 80 ans a pris le temps de mettre en tableau d'une manière assez simple comme ça pour comparer justement les jugements qu'on retrouve. Et je sais que c'est petit. Vous pourrez le recevoir par courriel. Vous avez juste à m'envoyer un courriel. Certains demandent mes notes et le PowerPoint régulièrement. Ne vous gênez pas. Mais vous avez là ici les jugements des coupes, ensuite ceux des trompettes, et vous avez à gauche ici ce qui se passe comme jugement. Et ce qu'on remarque, ce ne sont pas les mêmes jugements qui se répètent, ils sont différents, il y a une distinction, il y a des fois des ressemblances, l'ordre n'est pas nécessairement du tout en plus le même, et on peut voir là où il y a des redondances, là où il n'y en a pas des redondances apparentes, pour voir qu'il n'y a pas juste une simple répétition. Mais il y a bien une progression dans les jugements à travers le livre, comme ce tableau peut le montrer assez simplement. Il y a une avancée chronologique, même si tout le détail de cette avancée chronologique ne nous est pas donné comme tel. Et ça ressemble aussi à ce qu'on retrouve dans le Seigneur Jésus qui va parler de jugement dans le livre de Matthieu lorsqu'il parle du jugement qu'il y aura un jour sur la ville de Jérusalem, le temple. Il parle aussi de jugement qu'il y aura dans l'avenir et on voit beaucoup de correspondances qui nous est décrite justement dans les choses qui sont mentionnées dans le chapitre 24, versets 4 à 13. Et je l'ai mis sur cette diapo où ce qu'on voit un enchaînement de jugement où il y a de la séduction. Il y a de l'égarement spirituel qui est fait des mensonges. Il y a des bruits de guerre, nation contre nation. Il y a des famines, des séismes selon les lieux, persécution et meurtre des croyants à cause du nom du Seigneur et trahison, même intrafamiliale. Il partage donc non seulement qu'il y a eu ces choses qui se sont passées lorsqu'il y a eu le jugement sur Jérusalem, il y a dans le futur des activités comme ça qui vont se passer, qui vont s'intensifier dans cette dernière tribulation ultime et combat entre le bien et le mal, le jugement de Dieu et le diable qui espère prendre le contrôle de cette planète. Je vous rappelle maintenant ces quatre jugements qu'on vient de lire, les quatre cavaliers. Qu'est-ce qu'ils représentent? Bien, évidemment, ce cavalier blanc est en fait pas le Seigneur Jésus, parce que lorsqu'on compare le Seigneur Jésus qui revient avec un cheval blanc dans le futur, au chapitre 19, la description n'est pas la même du personnage. C'est plutôt l'Antichrist qui imite de manière trompeuse la paix et qui installe une fausse paix pendant une période au début de la tribulation pour contrôler les gens. Et on retrouve dans cette description-là beaucoup de parallèles avec ce qu'on retrouve dans Zacharie, les jugements qui sont donnés dans Zacharie chapitre 1 et chapitre 6. On voit cette nature des jugements qui sont là et la fausseté et la séduction même du cheval blanc qui est encore l'imitation de l'Antichrist qui veut faire paraître comme s'il était le Christ. Vous vous rappelez, lorsque Jésus en parle, il y a des gens qui vont vous dire « Où est le Christ? Le Christ est ici, le Christ est là. » Il dit « Croyez-les pas. » Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous tromper et même essayer de tromper les croyants. Vous autres, vous êtes avertis, vous savez qui est le Seigneur Jésus, vous le connaissez, vous devriez pas être séduits, parce que le mal va tenter même de séduire ceux qui croient. Et donc, le premier est un cheval blanc qui veut donner l'impression d'être la paix elle-même, et peut-être même le Christ qui vient pour instaurer la paix. Mais ça va être une genre de guerre froide, une paix, mais une fausse paix, où il n'y a pas de bombes qui se font envoyer, mais une tension qui va être là, un contrôle mondial qui va se faire par l'Antichrist. Le détail nous est pas donné sur le comment faire. Et des fois, on a vu des gens qui vont essayer de tout expliquer ça. Ah, c'est peut-être lui, ça va être comme ça. Puis là, quand on verse à essayer d'expliquer et d'imaginer qu'est-ce qui va se passer, mais qui n'est pas là, on tombe dans l'orgueil. L'arrogance de penser qu'on peut nous autres expliquer tout ça, trouver les détails, alors que le Seigneur nous donne pas tous les détails. Et il veut pas qu'on ait tous les détails ou qu'on essaye d'avoir tous les détails. C'est de l'arrogance de notre part. Il veut nous avertir et qu'on ait un portrait général, sans voir tout le détail. Notre tendance humaine, c'est de vouloir le détail de notre arrogance et de penser qu'on a une clairvoyance mieux qu'un autre pour y découvrir les détails. Ne tombons pas dans ce piège. Le deuxième cavalier vient, le deuxième saut, et on parle d'un cheval ici, évidemment, rouge, feu, parlant de jugement, de feu, de guerre, de gens qui vont mourir par l'épée, de bain de sang dans le monde humain, égorgé littéralement, et c'est pourquoi on parle d'une grande épée. Ça nous fait peur. Et on va avoir des détails un peu plus grands de cela plus loin. Mais c'est le jugement qui va se passer. Éventuellement, après cette fausse paix, il va venir des guerres et des bains de sang sur la terre. Non seulement ça, mais il va y avoir aussi le cheval noir. On parle de peste, mais on parle surtout ici de problèmes de faim qu'il va y avoir, où on parle de balance. C'est une image commune pour parler du fait qu'il y a une pénurie et là, on pèse tout. Il va y avoir des manques et des pénuries de certaines affaires alimentaires nécessaires qui vont amener des famines, qui vont amener évidemment la faim, des gens qui vont mourir de cela et des gens qui, comme dans toutes ces circonstances-là, veulent pas se débarrasser des choses de luxe et qui vont à contrôler cela et qui vont se garder isolés. Même dans les moments de famine dans le monde, on voit toujours une classe qui réussit à contrôler davantage et qui peut se garder dans le luxe au détriment des autres. Ça s'est trouvé dans toute l'histoire humaine, rien de nouveau, et ça va arriver dans l'avenir, et c'est ce qu'on retrouve décrit ici. J'irai pas dans les détails des mesures, parce que là, on se perdrait. Je vous donne le résumé des grandes lignes. Ces détails-là, vous pourriez les trouver dans mes notes, par exemple, si vous désirez aller plus loin avec cela. Et ensuite, bien, on a ici celui du cheval verdâtre, et là, c'est l'image de la mort, imagée dans la personne de Thanatos et de Hadès, comme on retrouve chez les dieux grecs, et qui sont l'image ici, évidemment, de personnages qui parlent de la mort. Et ce qui est réconfortant ici de savoir, et je vous rappelle ici qu'on parle aussi de jugement avec l'épée, la faim, la mort et finalement même les fauves, donc les animaux sauvages qui sont sans contrôle dans le pays et qui attaquent les gens. On a une série là, qui est sortie un peu dans ce genre-là là, récemment. Peut-être certains ont vu sur Netflix la série Zoo. Alors, pas que je vous le recommande comme tel, ni que je vous le décommande, c'est juste que c'est un constat et c'est populaire cette idée de fauves qui deviennent sauvages, qui attaquent les êtres humains. Et on l'a vu, ce genre de jugement-là arriver, Ézéchiel en parle, où ce que Israël a été jugé à une époque où il y avait moins de population. Ézéchiel va en parler, de jugement de Dieu qui permet ces quatre terribles châtiments dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 21. Il y a quasiment du copier-coller ici dans le genre de jugement qu'on retrouve là. Ézéchiel 14, verset 21. Des jugements d'extermination littéralement. Et là, on parle du corps de la planète qui va être tué. Ben, voyons donc. Effectivement, quand on parle de des images apocalyptiques, on parle du corps de la planète et éventuellement, on va parler que ce 75% de la planète qui reste, il y a un autre tiers qui va être tué dans un autre jugement éventuellement. Et donc, on parle de 50% de la planète, des humains, qui dans cette période de temps-là vont mourir. Rien de ce qu'on vit aujourd'hui. Rien à côté de ce qu'on vit aujourd'hui. 8 milliards, 4 milliards mourraient. Imaginez, jugement sur la terre. C'est grave, c'est gros ce qu'on est en train de lire là, et ça peut être extrêmement troublant si on n'a pas la vue d'ensemble. 50% de la population mondiale. Soudain, tous les programmes humanitaires, les programmes pour apporter la paix, les programmes pour apporter l'abondance, la longévité, grâce à la médecine, seront annulés dans un court laps de temps. Pour accomplir ce jugement terrible sur la terre, pour son rejet de son Créateur, pour le rejet de son seul et unique Rédempteur. Voici la preuve que la mort ne finit pas tout, car l'âme va au séjour des morts. Et finalement, la personne non sauvée sera jetée dans l'étang de feu, éventuellement, la Bible nous dit. Et voici ce qu'on lit, justement, à ce sujet-là. Dans Apocalypse 1, chapitre 1, verset 18. « Je suis le premier. » C'est Jésus qui déclare son autorité sur la mort. Il dit « Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et parce qu'il est vivant qu'il a vaincu la mort, bien, « Je tiens les clés. » Donc, le pouvoir. J'ai sous contrôle, j'ai sous clé la mort, Thanatos, et le séjour des morts qui va regorger, littéralement, vomir ces morts à une époque où ce que le Seigneur va dire. La preuve de cela, c'est qu'à la toute fin du livre, on lit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts, donc Thanatos et Hadès, les mots utilisés ici, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Pourquoi? Parce que celui qui est rédempteur, celui qui est créateur, a l'autorité sur la mort et sur le séjour où sont les morts en attente de jugement final. Et c'est sur l'ordre de Jésus comme vainqueurs, que ceux-ci vont être regurgités littéralement pour le jugement à la fin. C'est quelque chose. Et ça nous rappelle ici le contrôle total que Jésus sur tout cela. Thanatos et Hadès ne sont pas des dieux qui ont du pouvoir. Tout cela est sous le contrôle de Jésus, de celui qui a le mot final. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est au milieu du livre, du chapitre, excusez-moi, ces versets que je vais vous lire à l'instant. Les martyrs du cinquième sceau. Et je vous lis cela, regardez attentivement ces quelques versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes. Les âmes de ceux qui avaient été immolés ou égorgés, ou tués éventuellement même à la hache, on utilise cette expression, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Et donc, on a la raison. Ils criaient d'une voix forte, « Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Il y a une soif pour la justice devant l'injustice humaine et le mal qui est fait envers ses croyants. Alors, il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce qu'il fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et là, j'ai divisé ces trois versets-là en quatre parties. Premièrement, qui sont ces gens? Leur identité. On apprend que ces gens sont des gens qui sont immolés et qui sont des témoins. L'apôtre Jean vivait lui-même comme un martyr, un témoin pour la parole de Dieu qui vivait des difficultés, qui était persécuté. Et ces gens sont clairement des martyrs de la tribulation, de la grande tribulation, on va lire au chapitre suivant, et non de l'Église. Rien n'est dit au sujet de l'Église ici dans ce verset, comme dans le chapitre suivant. Probablement la première moitié de la tribulation et la période des premiers quatre sceaux. La cause de leur mort est claire, c'est pour leur foi en Jésus. Ils sont rejetés pour leur message et par les êtres humains qui sont rebelles, qui ont rejeté le Créateur et le Rédempteur. Et maintenant, ils sont accueillis au ciel par Dieu. Ils représentent ici comme protégés sous l'autel de Dieu, des bénéficiés, ceux qui bénéficient de ce qui a été fait sur l'autel du Seigneur, ce que le sacrifice a été fait à la croix par l'agneau. Ils sont là, protégés en attente. C'est leur identité. Ensuite, ils posent une question. Ils ont soif de justice. Ils disent, jusqu'à quand? Et on a l'image ici de ce qu'on a lu. Vous savez, on a regardé l'histoire tantôt de Caïn et Abel. Et le Seigneur, lorsqu'il va parler à Caïn, il va lui dire, le sang, les sangs, littéralement, de ton frère crie du sol pour la justice. Le sang versé injustement à terre, le Seigneur entend le cri de l'injustice du sang qui verse injustement, qui se verse sur le sol injustement. C'est assez spécial dans cette histoire de Genèse chapitre 4, où ce qu'on voit déjà le Seigneur sensible à l'injustice et qui dit, il y aura un temps de vengeance, il y aura un temps pour payer, un temps de rétribution pour le mal qui est fait. Attendez après moi, mais ça va venir. Mais eux autres disent, jusqu'à quand ils ont soif de justice? Et certains d'entre vous, je sais, ont soif de justice en voir l'injustice autour de vous, avoir des incohérences, mais il y aura encore pire, chers amis. Et il y a des gens qui crient dans le monde aujourd'hui pour l'injustice et qui sont en prison pour leur foi présentement. Qu'un membre de la famille est mort pour leur foi, pour s'être converti. Qui sont pendus. Oui, ça existe. On n'entend pas parler en Amérique du Nord. C'est pas ça que les médias aiment nous présenter. Mais chaque jour, des chrétiens sont tués à travers le monde. Que ce soit au Soudan, que ce soit dans des pays musulmans, que ce soit dans le nord de l'Inde, à tellement d'endroits. Mais des pays dont on donne peu d'informations sur eux parce qu'ils n'ont pas une grande importance ou intérêt politique. Et c'est plate à dire pour nos nouvelles nord-américaines. Triste constat. Mais ça se passe tous les jours. Et ceux-ci crient, Seigneur, faites quoi? Combien de temps tu vas endurer ça, Seigneur? Et c'est le cri du cœur de certains d'entre vous, sans vivre cette même persécution, vous vivez cette oppression spirituelle. Que dire de plus? L'appel ici est fait au Dieu saint, au Maître véritable. Il est celui qui est vrai, qui est authentique, réel. C'est le mot vrai ici qui est là. Et le mot ici souligné pour maître, c'est pas un mot qu'on veut trouver souvent, c'est le mot duquel on trouve le mot despote. Un despote, c'est un dictateur. Généralement, c'est quelqu'un qui est au contrôle, mais il est utilisé aussi à quelques reprises dans le Nouveau Testament, pas souvent, pour parler du seul et unique despote, celui qui est au contrôle total, mais pas de manière péjorative, négative, positive. Le maître qui a un contrôle absolu sur les affaires du monde. Ils appellent à lui, celui qui est rempli de vérité, qui est saint et qui est au contrôle de ce qui se passe. Il y a ici un appel à ce que le Seigneur interagisse avec le péché parce qu'il est saint. Et l'appel est légitime. Il demande sur les habitants de la terre ce jugement qui s'en vient. Et on se rappellera dans le chapitre 3, verset 10, qu'il disait ceci. Ce jugement, cette tribulation arrivera sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent la terre. Pas pour éprouver les croyants, pour éprouver ceux qui habitent la terre qui avaient rejeté le Créateur et le Rédempteur. On apprend ensuite la belle récompense qu'ils ont. Seigneur, laisse pas ces saints, ces croyants, sans récompense, sans encouragement. Et il montre cette récompense-là pour le dire, leur donnant une robe blanche. Ça parle évidemment de la purification de leur péché, le pardon. Ça parle du blanchissement, j'utiliserai ce terme-là, de notre casier judiciaire au ciel. Un casier judiciaire lavé qui reçoit ce vêtement blanc, symbole de purification. Et là, on voit la réponse. Il leur fut dit qu'ils se tiennent en repos. Donc, il y a un message qui leur est donné à eux, qui sont en attente, qui sont dans Hadès, qui sont dans le séjour des morts, en attente où ce qu'ils vont être sortis et qu'éventuellement seront jugés pour être amenés, eux, dans le royaume du Seigneur. Il leur dit ces informations suivantes. Qu'ils se tiennent en repos, présentement, encore un peu de temps, donc ça sera pas long, jusqu'à ce que fût au complet, donc le nombre n'est pas complet de leur co-esclaves ou co-serviteurs, un terme qui est utilisé pour parler de gens, utilisé pour parler de ceux qui sont en train d'être persécutés pour leur foi dans le livre d'Apocalypse, qui reçoivent ce message des églises, leurs frères, ceux qui devaient être tués, comme eux également. Et là, ici, on apprend cinq informations importantes que je vous lis rapidement sur cette réponse qu'il donne à ces gens. On apprend ceci. Premièrement, il faut patienter le temps de Dieu avant sa vengeance, mais ce qui est réconfortant, c'est que ce temps-là, il est petit. Le mot utilisé ici, c'est micro. Micra. Il reste peu de temps. Il reste peu de chronos, littéralement, ici. Deuxièmement, ils sont invités à attendre, et plus précisément, à se tenir en repos, comme Jésus le dit. Lorsqu'il dit, « Moi, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Tenez-vous en repos présentement. Vous êtes en repos. Restez là et profitez de ce repos que Jésus a donné. » À ceux qui croient en lui, en attente de ce temps de justice qui viendra. Ils sont invités de profiter des bienfaits de la paix qu'offre le Seigneur en son temps. Dieu n'est pas soumis au temps, malgré que nous le sommes présentement. Donc, pour lui, dans les faits, c'est déjà accompli. Il dit, profitez de ça présentement. Troisièmement, il faut que le nombre des gens soit complet. Et donc, seulement Dieu sait quand le nombre va être complet de gens avant son retour, avant le jugement. Lui sait le nombre précis, chaque nom, et il est dans l'attente. Et chaque fois, c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans son évangile, qu'il patiente, espérant que tous viennent à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il aime, il veut offrir sa grâce, et il attend, il y a des noms encore à venir. C'est pour ça qu'il n'est pas encore venu. Et il leur dit, attendez, il y a encore d'autres qui vont venir, et ensuite, j'irai. J'attends le moment qu'il soit comblé de mes enfants. Quatrièmement, ces gens sont appelés des co-esclaves ou leurs frères, d'où la traduction des compagnons de service, mettons dans la TOB ou dans d'autres. Le terme esclave ou serviteur ici est utilisé par Jean pour décrire aussi les gens qui sont en train de recevoir cette lettre. Les gens des villes, des sept églises, sont appelés des co-esclaves, donc des co-serviteurs. Vous êtes des gens avec qui je sers le Seigneur sur cette terre ensemble. On est une équipe. Intéressant. Très instructif dans cette notion de pratiquer le fait que même celui avec qui, et là j'oserais dire ceci, écoutez bien, celui que vous pensez pas pareil sur la pandémie, celui ou celle qui pense pas pareil sur le vaccin, Celui ou celle qui est croyant autour de vous, qui n'a pas la même opinion que vous sur l'Apocalypse, sur l'avenir. Co-serviteur. Dans la même équipe. Ne perdons pas de vue notre unité et dans quelle équipe nous sommes. Ne laissons pas des opinions qui parfois stimulent beaucoup notre orgueil. Soyons clairs. Je pense que mon opinion est bonne. Moi, je vois clair. C'est pas important. Rappelle-toi dans quelle équipe que tu étais, dans l'équipe de Christ, la famille de Christ, et tes confrères, co-sœurs dans la foi, co-esclaves ici, co-serviteurs, avec qui tu vas partager l'éternité, sont plus importants que ton opinion, que mon opinion, que je trouve tellement bonne, que je vois tellement clair, que je vois des nuances que l'autre voit pas. Ça cultive beaucoup notre orgueil, les amis. Que ce soit dit, attention, attention à cela. Oublions pas qui sont nos co-serviteurs, nos co-esclaves à qui on sert le maître. C'est pas moi que je sers, c'est pas nos opinions qu'on sert. C'est pas une bannière qu'on sert. C'est Christ, mort pour nous, dont l'autre à côté qui croit en lui est mon co-serviteur de la même famille, un frère, sœur avec qui je serai pour l'éternité. Et je pense qu'on doit se le rappeler. Lorsque le monde fait beaucoup de tensions présentement, que les relations sont coupées sur des prétextes qui ne devraient pas le faire. Et finalement, ceux qui attendent sont identifiés comme des martyrs. Ceux donc qui rendent témoignage, qui ont un témoignage, ils sont martyrs parce qu'ils partagent leur foi. Ils sont persécutés pour ça, c'est la raison. Ceux qui devaient être tués comme eux aussi. Et donc, on a leur identité, on a évidemment, et là je cherche mes notes parce que je dois reculer pour vous rappeler, on a la question qui est posée au Seigneur, jusqu'à quand? On a la récompense ici qui nous est donnée et la réponse du Seigneur qui nous donne des détails vraiment importants à ce sujet. Je vous lis ce détail final avant d'aller au sixième sceau. C'est Monsieur Ryrie, un commentateur dont j'apprécie, qui est mort depuis des années, mais dont la pertinence de ses propos demeure à ce jour. La réponse de Dieu donne un aperçu du problème complexe de la raison pour laquelle le mal est autorisé à régner sur terre. Dieu le permet simplement pour ses propres buts, qui sont les meilleurs du point de vue de son plan global, bien que difficile à comprendre du point de vue limité humain. Il est difficile pour ces martyrs de comprendre pourquoi Dieu permet à ces meurtriers malfaisants de vivre, mais il leur demande de lui faire confiance pour faire en sorte que tout va se dérouler de la meilleure façon. Dieu demeure au contrôle, les amis, même dans la mort de son peuple, alors qu'il n'y a rien à craindre pour nous présentement. Rappelez-vous ces paroles du psaume 116 qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. » Elle a du prix, elle a une valeur. Et il y a même, je dirais, une souffrance partagée par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie de ce fidèle qui est meurtri pour la foi, et ça passera jamais inaperçu. Le Seigneur le voit, il l'identifie, il a une récompense, il a des mots de réconfort, et il donne de la perspective pour encourager nos souffrances. Et c'est pour ça que je vous dis, au milieu de tout cela, il y a du réconfort dans la souffrance. Il y a des paroles de perspective divine ici pour nous aider à avancer et pas se laisser distraire de l'épreuve, de tout ce qui nous accable, qui nous décourage et qui nous amène même des questions sur Dieu, même peut-être sur sa nature. Ne nous laissons pas emporter. Maintenant, le sixième sceau est le dernier qu'on regarde dans ce chapitre. Et je vous lis ces terribles jugements au verset 12 qui viennent. Quand il ouvrit le sixième sceau, il se fit un violent tremblement de terre. Un violent tremblement de terre. Un méga tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de crin. Et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombent sur la terre. Des météorites qui tombent sur la terre, comme le fruit vert d'un figuier battu par la tempête et que ça tombe tout à terre, quand c'est près, c'est mûr, puis ça tombe parce que c'est fragile par une grande tempête. Le ciel se retira comme un rouleau. C'est-à-dire, vous savez, il y a un rouleau, si on le prend, le rouleau justement dans lequel les seaux étaient, et qu'on enlève les seaux, et là, on fait rouler le rouleau. Et là, tout à coup, ça part. C'est cette image-là qui est utilisée pour le ciel qui part comme ça, littéralement, comme un rouleau, ou qui revient littéralement. Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées, donc c'est des catastrophes mondiales. Les rois de la terre, les grands et les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous esclaves et hommes libres, se cachent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône. » Vous voyez ici, notre image qu'on a vue du trône nous revient juste ici. On fait allusion au chapitre 4 et 5. Celui qui est au contrôle, il est en train de nous juger. On veut même se cacher de sa face. On veut pas le voir. On veut rien savoir, même quand il fait tomber le jugement qui nous amène la mort. On le rejette même dans la mort. La rébellion humaine. Il y a des martyrs, mais il y a la réponse de ceux qui veulent rien savoir malgré les jugements qui s'en viennent, qui voient et qui avertissent et qui montrent le sérieux. On rejette celui sur le trône délibérément ici. Et loin de la colère de l'agneau, on veut rien savoir de sa colère qui se manifeste ici, la colère du Rédempteur du chapitre 5. Car il est venu le grand jour de leur colère, l'heure ici parlant de celui sur le trône et de l'agneau. Qui peut et qui peut subsister? Et ça nous donne quand même quelques informations vraiment importantes ici, dans ces versets. Le sixième sceau, il est caractérisé par les catastrophes naturelles, les hommes de la terre, riches et pauvres, cherchant à se cacher de la colère de Dieu dans leur rébellion, même lorsque le malheur frappe. On utilise aussi le mot « comme », hein. Remarquez bien ici le mot imagé « comme », « comme », « semblable à ». On n'est pas en train de dire que c'est du crin, littéralement. Ça ressemble à, c'est comme. On utilise des images ici qui communiquent une image claire et il faut pas se tromper entre le littéral et les images. C'est important de respecter ça ici dans le langage apocalyptique et les mots utilisés pour décrire tout cela. Ensuite, description des catastrophes qui reprend les paroles littéralement de Joël. Le livre de Joël, le petit prophète. Là, j'ai dit petit prophète, puis là, il y en a qui disent, ah, Joël, c'est un petit prophète. Non, ça n'a pas rapport, c'est un petit prophète, parce que 12 petits prophètes, c'est pas leur grandeur, OK? Alors, c'était des grands prophètes devant l'Éternel, même le prophète Joël, mais des petits livres qui ont juste quelques chapitres, et ces 12 prophètes, appelés les petits prophètes, il y a le prophète Joël, peu connu, et dans le chapitre 2, verset 31, on a ces paroles qui sont reprises aussi dans Matthieu, chapitre 24. Le Seigneur Jésus va reprendre au verset 29 du chapitre 24 ses paroles qui parlent de ce soleil qui changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Il y a un jour qui s'en vient de jugement, de la colère de Dieu. Et ces paroles de Joël étaient utilisées pour parler de cela. Et là, il les applique dans l'Apocalypse comme Jésus les a appliquées dans le chapitre 24. Et non seulement cela, on a aussi les paroles de détresse des gens de la terre qui subissent cette catastrophe qui rappelle celle de Osée, chapitre 10, verset 8, au sujet des sentiments vécus par les Israélites dans le nord d'Israël lorsqu'ils étaient attaqués par les Assyriens, que Dieu permettait le jugement sur eux. Et c'est les paroles qui sont reprises de ce livre-là, qui annonçaient leur jugement. Il l'a dit d'avance, c'est arrivé, et ces mêmes paroles-là maintenant sont appliquées. Il dit, les gens vont vivre la même émotion de vouloir mourir sous ces pierres plutôt que de faire face et de se repentir. C'est fou, hein? Dans notre obstination humaine, arrogance, dans cette rébellion, même devant le constat de la vérité indéniable de ce jugement d'avoir tout perdu, d'être nu, d'être prêt à mourir, je veux rien savoir de toi quand même. La grâce du Créateur et de son Rédempteur est rejetée unilatéralement. C'est fou, mais c'est une réalité. Et notons ici qu'il y a une distinction entre les persécutions humaines et les autres problèmes qu'il y a eu sur la terre auparavant. Celui-ci se démarque, c'est mondial ce qu'on lit ici. Et n'épargne personne ce qu'on voit dans ce chapitre. Et lorsque la tribulation arrive, les hommes seront ici à un point final et ils rejettent malgré tout. Au chapitre suivant, après une parenthèse qu'on va regarder dans deux semaines, Apocalypse chapitre 7, où ce qu'on voit un peu plus d'informations sur ces martyrs. On va les regarder en détail et on va parler de ce œuvre rédempteur envers ces martyrs que le Seigneur a. On va arriver justement au septième sceau qu'on regarde pas aujourd'hui, qui va ouvrir les sept trompettes au chapitre 8. Mais ça sera pour le futur. Pour le moment, permettez-moi de résumer ce matin en terminant et en donnant des pistes de réflexion qui, à mon sens, sont vraiment importantes en terminant ce chapitre. En résumé, les sept sceaux présente les jugements de Dieu au commencement de la tribulation, probablement la première moitié des sept ans. Cette période commence par une conquête pacifique des forces qui sont contre Christ. Puis il y aura des guerres, il y aura des famines, la mort pour un quart de la planète. Des martyrs dans cette période prieront Dieu pour la vengeance dans le cinquième sceau. Et cette période connaîtra également des méga bouleversements dans la nature. Tout cela mène à une période de tribulation au commencement des jugements des sept trompettes qu'on va regarder au chapitre 8. Et je vous ai donné ici un petit résumé avec le mot méga. Le mot méga est utilisé 6 fois dans le chapitre, mais vous le voyez pas, c'est le mot grand. Des fois, il est pas traduit non plus. Ça dépend des versions. Mais en grec, il est là, le mot méga, pour 6 éléments du chapitre qui peuvent être utilisés pour présenter le chapitre de manière didactique. Il y a une grande épée et il y a une grande voix qui annonce les choses qui s'en viennent. Et il y a un grand séisme. Et dans ce dernier jugement, il y aura la secousse d'un grand vent, duquel même les grands de ce monde ne pourront pas se cacher, de ce grand jour du jugement de Dieu. Et le dernier grand, c'est le jour du jugement de Dieu, de sa colère. Et on termine ce chapitre sur cette note qui peut-être trouble certains, la colère de Dieu. La colère de Dieu. Mais écoutez, soyons clairs. La vidéo, même de Jérémie avec les enfants, il parlait d'une juste colère, n'est-ce pas? Devant l'injustice, d'être en colère de l'injustice, c'est correct. Le Créateur est rejeté. Son Rédempteur est crucifié. Il a vaincu la mort et le Rédempteur, celui qui rachète nos âmes, qui a vaincu la mort et qui offre le pardon de nos péchés, est rejeté. Et même dans le dernier souffle des rebelles, il est rejeté, on désire se cacher. Il est normal qu'il y ait une colère divine. Et il y a un grand sermon qui date de cela de plus de 280 ans. Je vous ramène à ce sermon parce que je vais vous lire quelques éléments de ce sermon que Jonathan Edwards a lu parce qu'il lisait ses sermons. Et c'était parfois, on dit, assez accablant, lire monotone un texte, pas d'expression, comme un professeur qui faisait une lecture intellectuelle, exigeante, d'argumentation. C'était les sermons de Jonathan Edwards qui était connu comme un grand théologien, président d'un séminaire important. Et il a fait un sermon bien connu, qui s'appelle « Sinners in the Hands of the Angry God », c'est-à-dire « Le pécheur dans les mains d'un Dieu en colère ». Et ce sermon, même après 280 ans plus, si on retourne 6 mois en arrière, le 6 juillet de 1741, il a été prononcé à Ensfield, au Connecticut, dans un simple chant. Et on en parle encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous lire juste quelques extraits, parce qu'il parle de la colère de Dieu et du sérieux de cette colère. Et ça mérite d'être lu en conclusion pour réfléchir, après qu'on ait vu du réconfort au milieu, une exhortation à faire face à la colère de Dieu en terminant. Son texte était Deutéronome, chapitre 32, verset 35, qui dit « Leurs pieds glissent en temps voulu ». Et Edwards explique son texte en disant ceci. Comme celui qui marche dans des endroits glissants est à tout moment susceptible de tomber, il ne peut pas prévoir à un moment donné s'il va rester debout ou tomber le lendemain. Et quand il tombe immédiatement, sans avertissement. Ce qui est aussi expliqué dans le psaume 73, verset 18-19, lorsqu'il dit « Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine et voilà, en un instant, ils sont détruits en parlant des méchants. L'arc de la colère de Dieu est tendu. La flèche est prête sur la corde et la justice plie la flèche sur votre cœur et tend l'arc. Et ce n'est rien d'autre que la simple plaisir de Dieu et celui d'un Dieu en colère sans aucune promesse d'obligation qui l'empêche à un instant la flèche de s'enivrer de votre sang. Ça a l'air dur, n'est-ce pas? Mais écoutez bien. Ainsi, Vous tous qui n'avez jamais subi un grand changement de cœur par la puissance de l'Esprit sur vos âmes. Vous tous qui n'êtes jamais nés de nouveau et qui êtes devenus de nouvelles créatures et qui êtes passés de l'état de mort au péché à un état de lumière et de vie nouveau. Une expérience inconnue pour vous. Vous êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Et il continue. Et maintenant, vous avez une occasion extraordinaire. Un jour où le Christ a ouvert en grand la porte de la miséricorde. Il se tient debout, criant d'une voix forte aux pauvres pécheurs. Un jour où debout, affluent vers lui, et se presse dans le royaume de Dieu. Beaucoup viennent chaque jour de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Beaucoup de ceux qui étaient récemment dans la même condition misérable que vous sont maintenant. Et là, ici, on parle évidemment dans l'état de cet état-là. Il y avait un grand réveil qui se passait à ce moment-là. Ils sont maintenant dans un état heureux, avec leur cœur rempli d'amour pour celui qui les a aimés et lavés de leurs péchés dans son sang, son propre sang, et réjouis dans l'espoir de la gloire de Dieu. C'est les paroles de cette prédication. Pendant qu'Edwards prêchait, des membres de l'auditoire criaient ceci. « Que dois-je faire pour être sauvé? Oh, je vais en enfer! » Certains sont dirigés vers la chair du prédicateur, suppliant qu'il arrête de prêcher. Et à un moment, dans le sermon, il y avait tellement de bruit dans l'auditoire, ils étaient dehors, imaginez, qu'Edwards doit demander au monde de se taire pour qu'il puisse être entendu par la foule. Il termine le sermon en disant que tous ceux qui sont hors du Christ maintenant, réveillez-vous et fuyez la colère à venir. La colère de Dieu tout-puissant prend sans aucun doute sur une grande partie. Excusez-moi, la colère de Dieu tout-puissant qui prend sans aucun doute sur une grande partie de cette, qui pèse, excusez-moi, sur une grande partie de cette congrégation. En parlant de la congrégation qui était devant lui. Que tout le monde fuit de Sodome. Hâtez-vous et fuyez pour sauver vos vies. Ne regardez pas derrière. Fuyez vers la montagne de peur d'être englouti. La petite ville d'Ensfield n'a plus jamais été la même après cette prédication sur la colère de Dieu. La colère de Dieu a sa place. Et elle nous avertit encore aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Prions ensemble. Père Céleste, c'est ta parole que nous avons lue ce matin. Et c'est aussi les paroles d'un grand prédicateur, d'un grand théologien qui a porté ta parole, Seigneur, sur cet avertissement final de la colère qui est sur nous lorsqu'on rejette la seule solution qui existe et qu'on s'entête. Seigneur, je te prie pour ceux et celles ce matin qui écoutent, pour ceux et celles qui écoutent peut-être en différé, de proche ou de loin ici, et qui peut-être assistent depuis longtemps à l'Église, ou pas longtemps, mais qui n'ont jamais encore reçu la grâce de Dieu, qui n'ont jamais réglé la colère de Dieu qui pèse sur eux devant un Créateur saint et juste. Et que ces paroles, Seigneur, sont utiles pour nous avertir. Suis-je prêt à rencontrer mon Créateur? Suis-je prêt à faire face à la mort? En 2022, ce 9 janvier, suis-je prêt à faire face à celui qui va me juger? Ou est-ce que je suis en train de me cacher? Je suis en train de me sauver? Je suis en train de m'entêter, de garder le contrôle sur ma vie? Oh Seigneur, j'invite mon auditoire qui est dans cette catégorie-là de se repentir ce matin alors qu'il y a jour de grâce. Et encore une fois, une invitation à répondre à ton invitation de venir à toi, de demander pardon, de confesser ses péchés avec un cœur repentant qui regrette sincèrement et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je crois en ton Fils Jésus. Je crois dans ce qu'il était et qui il est encore aujourd'hui et qu'il est ressuscité des morts, qu'il peut me pardonner. Pardonne-moi, s'il vous plaît, et fais de moi, dans ta grâce, ton enfant, s'il vous plaît. Sinon, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Peut-être ce matin, avez-vous besoin d'encouragement, se rappelant ces promesses données aux martyrs. Que le Seigneur, fortifie le cœur de ses enfants. Seigneur, fortifie le cœur de ceux qui écoutent présentement et qui sont en lutte, qui sont pris dans le monde, pris dans des distractions, dont la mission d'être un serviteur de Dieu est oubliée, ne paraît pas au quotidien. Peut-être ai-je développé de l'amertume contre quelqu'un qui est mon co-ouvrier, co-serviteur, et que je ne traite pas, que je suis en tension, un conflit qui doit être réglé, alors qu'on fait partie de la même équipe, Seigneur, que je ne puisse pas abandonner ce que tu mets sur mon cœur ce matin de régler, de faire face, sachant que le jour vient, et je ne sais pas quand est ce jour, mais je vais être prêt aujourd'hui à te rencontrer. Et de vivre chaque jour dans la reconnaissance que je suis un enfant de Dieu, que mon Dieu entend mes prières, qu'il se préoccupe de moi, qu'il a des récompenses pour moi, qu'il a tout fait et que je vaux cher à ses yeux pour que mon âme soit lavée, rachetée. Oh Seigneur, qu'on a beaucoup à te remercier. On veut te louer ce matin, que je sois dans cette position d'avoir accepté Jésus et d'être ce matin en train de confesser mes péchés, peu importe Seigneur. Rencontre nos besoins. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.